Décryptage, Anne Cantner.
Bonsoir, c'est une nouvelle étape dans la conquête spatiale. Dans quelques heures, deux astronautes américains vont partir pour la Station Spatiale Internationale. Ça n'est pas nouveau. Mais cela faisait 9 ans qu'il n'y avait pas eu de vol habité américain. Et surtout pour la première fois, c'est une entreprise privée qui opère. La société SpaceX et ce vol signent l'entrée dans la cour des grands du patron de SpaceX, l'original Elon Musk. Qu'est-ce que cela peut changer? Est-on au début d'une nouvelle ère dans le monde spatial? C'est notre décryptage du jour. Bienvenue! Deux invités sont avec moi par téléphone pour en parler. Bonsoir Léopold Deyartz.
Bonsoir et merci de me recevoir.
Mais merci à vous d'être avec nous. Vous êtes un ancien astronaute de l'Agence spatiale européenne. Vous êtes aussi général de l'armée de l'air. Et nous sommes en ligne également avec Stéphane Baranski, rédacteur en chef du magazine Aérospatium. Bonsoir.
Bonsoir.
Le décollage est prévu dans quelques heures maintenant. Si tout va bien au niveau météo, ça n'est pas gagné parce que il y a eu de la pluie et des orages ce matin en Floride. Donc on verra dans les prochaines heures si le départ est confirmé. J'aimerais commencer par vous poser une question, Léopold Deyartz, vous qui êtes un ancien astronaute, et j'imagine que je ne suis pas la seule, que nos auditeurs aussi ont envie de vous entendre. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment ça se passe, les quelques minutes qui précèdent le décollage, la préparation et puis le décollage?
Alors, sur le plan technique, si on peut dire, d'abord l'équipage enfile son scaphandre. Ce qu'ils viennent de faire d'ailleurs il y a quelques minutes, et on fait un test du scaphandre. Donc là on est à peu près à 3 heures avant le départ. Lorsque le test est concluant, l'équipage va partir vers le pas de tir. Donc ça va prendre encore 3 quarts d'heure, 1 heure je pense. Et ensuite ils vont s'installer dans le vaisseau spatial à peu près 2 heures et demie avant le départ. Voilà, donc et ensuite, après, il y a toujours une attente qui peut être plus ou moins longue, mais qui devrait à peu près être de 2 heures pour eux. Il faut savoir que c'est quand même un système qui est moins complexe que le système navette, donc on passe un peu moins de temps avant le départ dans la capsule. Et puis voilà, donc ensuite, l'équipage va ensuite attendre le départ. Il faut savoir que dans ce système actuel, avec donc le vaisseau... Le Crew Dragon, le vaisseau de SpaceX, et le lanceur, le Falcon 9, qui est le lanceur associé à ce vaisseau. Il y a un système de sauvetage, un système pour sauver l'équipage en cas de problème, soit sur le pas de tir au départ, soit plus tard pendant la montée, pendant le lancement. Et donc ce système va être armé à peu près 3 quarts d'heure avant le départ. Donc c'est un moment assez important, et c'est le moment où les équipes techniques vont commencer le remplissage des réservoirs du lanceur. Et puis ensuite, ça sera le départ.
Après le décollage donc en lui-même. Alors on aura l'occasion de parler dans quelques instants de SpaceX, donc la société d'Elon Musk. Mais avant, je voulais qu'on dise un mot de ce que représente ce vol pour les États-Unis, puisque c'est le premier vol habité depuis presque 10 ans, en fait, Stéphane Baranski.
Oui, alors il y a eu un hiatus dans l'accès des astronautes américains à l'espace, qui n'était pas du tout prévu, puisque donc quand l'arrêt de la navette a été décidé après l'accident de Columbia en 2003, il était prévu que la capsule Orion du programme Constellation à l'époque prenne le relais en 2012. Bon, le programme Constellation n'a pas eu lieu, la capsule Orion est toujours en développement et devrait voler l'an prochain, et donc il a fallu trouver une solution intermédiaire en faisant appel à des sociétés privées.
Voilà, c'est ça la spécificité de ce vol habité, c'est qu'il est opéré par un privé, par la société d'Elon Musk, et ça, c'est complètement inédit.
Alors, c'est complètement inédit. En fait, c'est une idée qui était venue déjà, ça fait 14 ans que ça se développe. Avant, la NASA dessinait, concevait ses vaisseaux et les achetait à l'industrie. Là, au lieu d'acheter un vaisseau, ils achètent un service. Donc, ils ont demandé à l'industrie de développer des vaisseaux pour pouvoir rendre ce service. Évidemment, l'industrie n'a pas fait ça toute seule. La NASA a énormément investi pour soutenir l'industrie et pour l'aider à résoudre tous les problèmes qu'elle pourrait rencontrer. Pour SpaceX, ça s'est fait en deux phases. D'abord, ils lui ont demandé de développer on va dire, une camionnette, une petite capsule inhabitée pour transférer du cargo vers la station. C'est la capsule Dragon qui vole depuis 2012. Et en 2014, ils ont passé un nouveau contrat pour adapter cette capsule et deux camionnettes en faire un break familial. Bon, ça a été plus long que prévu puisqu'elle devait voler normalement en 2017. Mais donc, on va voir avec ce vol de certification si le pari est remporté.
Alors, ce que vous nous expliquez, c'est que donc cette société a développé un vaisseau et elle en reste propriétaire. Hein, c'est SpaceX qui reste propriétaire de la fusée et de la capsule qui vont partir tout à l'heure. En fait, Léopold Eyart, la NASA achète, enfin elle loue un moyen de transport vers l'ISS, vers la Station Spatiale Internationale, c'est ça ?
Oui, c'est à peu près ça. La NASA va devenir un client en fait de SpaceX. Et SpaceX d'ailleurs aura la possibilité de vendre des sièges, si on peut dire, à des clients privés également, des entreprises ou des particuliers, si tant est qu'il y en ait qui puissent se payer le voyage. Mais oui, la SpaceX, et alors il faut dire aussi qu'il y a une autre société qui est Boeing, qui est aussi dans la course, qui a été choisie aussi par la NASA il y a quelques années pour fournir ce service de transport d'équipage. Et Boeing a fait voler un démonstrateur il y a peu de temps et devrait faire voler également un vol habité dans quelques mois. Et ensuite, ça sera un des deux fournisseurs du service de transport d'équipage privé.
Oui, voilà, ça fait quelques années maintenant que l'espace, en fait, n'est plus le domaine réservé d'une agence officielle, d'une agence d'État. On vient de mentionner Boeing. Quelles sont les principales entreprises privées dans le secteur, Stéphane Baranski ?
Donc, dans le secteur du transport spatial, du transport spatial habité, il y a essentiellement SpaceX et Boeing. Les autres sont fournisseurs de la NASA, comme Lockheed Martin ou Sierra Nevada. Mais, comment dire, c'est un secteur quand même où le billet d'entrée est extrêmement cher. Donc, que ce soit pour lancer des capsules habitées ou pour lancer des satellites, il vaut mieux d'abord engranger des contrats chez un très gros client, comme par exemple le Pentagone. Le Pentagone, en ce moment, est en train de mettre en concurrence différentes sociétés privées pour choisir ses futurs lanceurs pour ses satellites dits de sécurité nationale. Et là, donc, vous retrouvez les mêmes noms, vous retrouvez SpaceX, vous retrouvez Northrop Grumman, vous retrouvez Jeff Bezos avec Blue Origin. Et donc, de plus en plus, ces acteurs privés jouent un rôle important et de plus en plus, les donneurs d'ordre n'achètent plus un système, ils achètent un service.
Ça, c'est le cas aux États-Unis. Est-ce que c'est une formule qui pourrait intéresser d'autres pays, ces partenariats avec des entreprises privées, selon vous, Léopold Eyart ?
Oui, alors il faut savoir que ça se fait déjà. Les autres partenaires de la station internationale, et en particulier l'Agence spatiale européenne, font aussi la commercialisation de la station. Alors, pas commercialisation du transport d'équipage, voire même du transport de charges utiles pour les autres agences partenaires, mais on commercialise déjà l'utilisation de la station spatiale internationale pour réaliser des expériences. Et donc, il y a déjà quelques entreprises privées qui ont leurs équipements scientifiques ou qui font de la recherche commerciale à bord de l'ISS. Et c'est quelque chose qui est amené à se développer dans l'avenir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le choix de la NASA pour donner la main, si vous voulez, à ces compagnies privées pour le transport d'équipage en orbite basse, c'était aussi fait pour libérer un peu la NASA de ces charges qui sont en quelque sorte un petit peu routinière, et pour pouvoir se consacrer plus d'énergie et plus d'argent aussi à l'exploration spatiale. On va peut-être en
parler. Oui, c'est ça. On a décidé, en fait, que les États-Unis ont décidé que la NASA allait se concentrer sur d'autres missions peut-être plus ambitieuses. C'est ça, Léopold Eyart ?
Et avec les partenaires de la station internationale, donc les agences japonaises, russes, canadiennes et l'Agence spatiale européenne.
Alors, qu'est-ce qu'ils sont ces grands projets, notamment de la NASA, parce que là, on parle des États-Unis, mais c'est quoi ces grands projets de conquête spatiale qui l'ont incité à délaisser certains autres projets plus petits, et notamment le transport vers l'ISS ?
Alors, Le projet, c'est d'abord de retourner vers la Lune et ensuite de continuer de pousser l'exploration plus loin. Mais dans un premier temps, le projet actuel, c'est d'avoir des équipages qui seront en orbite sur une station autour de la Lune et puis de revenir vers la Lune dans les prochaines années, puisque c'est prévu dans 4 ou 5 ans déjà, même si bon, on peut être un peu prudent sur le planning, mais l'objectif c'est de mettre à nouveau le pied sur la Lune et puis surtout d'y rester, donc de façon peut-être pas en permanence, mais avoir des visites régulières sur la surface de la Lune par des équipages, par des êtres humains.
Donc deux grands projets et puis en attendant, eh bien certaines autres missions, peut-être un peu plus petites, qui dépendraient de sociétés privées. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et si SpaceX peut opérer ce vol vers la Station spatiale internationale, c'est notamment parce que les États-Unis ont fait de l'accès à cette station, à l'ISS, quelque chose qui relève du domaine commercial. J'ai lu ça en préparant l'émission. Je voulais m'assurer que j'avais bien compris, Stéphane Baranski.
Alors, en effet, c'est assez récent, ça date de quelques années. La NASA a décidé d'ouvrir la partie non russe de la station aux investisseurs privés, aux activités privées commerciales. Alors, c'est assez amusant parce que du coup, ils ont fait un barème sur combien coûte une heure de travail d'un astronaute, combien coûte un accès à la station pendant une journée, combien coûte l'accès aux toilettes de la station. Ils ont un barème très précis sur toutes ces activités.
Ah oui, c'est précis, oui.
Et donc, l'idée, c'est que le secteur privé prenne de plus en plus en charge les coûts de la station, parce que la station, normalement, devait s'arrêter, quand on a commencé à la faire, on avait prévu qu'elle s'arrêterait en 2015. Et puis, on a pris beaucoup de temps pour la construire. Donc, finalement, on a poussé ça à 2020, puis à 2024. Aujourd'hui, on parle de 2028-2030. Mais tout ça empiète sur le calendrier que la NASA veut utiliser pour aller sur la Lune, ce qui va coûter relativement cher. Donc, il faut qu'elle s'allège de ce coût-là. Et donc, à partir de 2024, l'essentiel de la prise en charge de la station sera faite par le secteur privé. Et donc, il y a déjà une société qui s'appelle Axiom qui va rajouter un module à la station et qui a déjà acheté un vol à SpaceX pour normalement la fin de l'an prochain pour amener des passagers payants à bord.
Quelle est la place de SpaceX aujourd'hui par rapport à la NASA? Est-ce que c'est un sous-traitant ou est-ce que c'est carrément devenu un partenaire, Stéphane Baranski?
Et par certains côtés, c'est un partenaire. Le développement de la capsule Dragon, enfin des deux versions de la capsule Dragon, au total, pour la NASA, c'est un investissement de près de 8 milliards. Donc, cet investissement, ils ont quand même essayé de garder les yeux dessus. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup travaillé en commun. Mais c'est un partenaire commercial, c'est un fournisseur. Et certains y verraient parfois un concurrent. Car Elon Musk a ses propres idées sur ce que devrait être la conquête de l'espace et il essaye donc de financer sa propre vision pour aller vers la Lune, mais surtout pour aller vers Mars, qu'il entend clairement coloniser.
Bon, ça, c'est un projet à beaucoup plus long terme, effectivement, de SpaceX et de son patron Elon Musk. On va revenir justement sur cette entreprise vraiment particulière dans un instant. Mais avant ça, je voulais vous poser une question à propos de ces trajets justement vers la Station spatiale internationale Léopold Eyart. Jusqu'à présent, ces dernières années, là, c'est la Russie qui assurait les trajets vers l'ISS. Et donc, ça signifiait qu'en fait, les États-Unis achetaient des places dans des capsules Soyouz. L'arrivée du secteur privé dans les transports peut changer pour la Russie. Qu'est-ce qui peut être modifié si le vol qui est prévu tout à l'heure est un succès et que les États-Unis en fait se débrouillent tout seuls à partir de maintenant?
Alors, c'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Ils vont pas se débrouiller tout seuls. Disons qu'après, les Russes auront aussi la possibilité d'envoyer leurs cosmonautes sur les vaisseaux privés américains, et les Américains et les partenaires continueront aussi d'envoyer des astronautes avec les Russes. Donc, si vous voulez, le changement important l'arrivée de ces vaisseaux commerciaux, c'est qu'on va avoir une alternative aux vaisseaux Soyouz Ce qui est important, bien sûr, sur le plan des opérations et sur le plan, je dirais, tactique pour la station, parce que ça permet d'avoir une redondance dans les moyens de transport. Le Soyouz, c'est le seul moyen aujourd'hui. Et s'il lui arrive quelque chose, bien sûr, ça peut poser pas mal de problèmes. D'ailleurs, c'est arrivé il y a 2 ans, il y a eu un accident de Soyouz. Donc, il crée une situation assez compliquée au niveau du transport d'équipage. Bon, les Russes ont réussi à récupérer relativement vite et à pouvoir envoyer à nouveau un équipage quelques mois après. Mais ça restait une situation un peu précaire au niveau du transport. Donc, je crois que le problème principal que ça va résoudre, c'est ça. C'est donc un moyen de transport alternatif vers l'ISS pour les équipages.
Un moyen de transport alternatif qui est donc garanti par cette société et d'autres peut-être plus tard, mais là en l'occurrence SpaceX qui n'a même pas 20 ans. Comment est-ce qu'elle est devenue cet acteur spatial majeur, Léopold Deyaert ? Parce qu'en plus au début, les premiers tests n'étaient pas vraiment très engageants et en fait, il faut bien le reconnaître, personne ne prenait Elon Musk vraiment très au sérieux.
Bah, je crois que la NASA l'a pris au sérieux, hein, c'est ce qu'on peut dire. Et donc, lui a mis le pied à l'étrier. Bon, c'est vrai qu'on peut dire quand même, je pense que Stéphane Baranski ne me contredira pas, c'est que la NASA a été quand même un sponsor pour SpaceX et bon pour Boeing aussi partiellement, mais Boeing avait déjà une expérience du transport spatial et des transports aériens aussi d'ailleurs. Le SpaceX a été choisi, si on peut dire, par la NASA et le développement de ces vaisseaux a été, on peut le dire, sponsorisé par la NASA. Bon, ceci dit, SpaceX a fait ses preuves également, puisque depuis quelques années, ils assurent le transport de charges utiles des vaisseaux cargo vers la station avec un succès qui n'est pas démenti, bien sûr.
Oui, SpaceX a réussi à effectivement se faire une place et à occuper un rôle très important aujourd'hui. Alors, cette société, c'est une société privée. Est-ce qu'on a une idée des coûts réels de la mission d'aujourd'hui, par exemple, Stéphane Baranski ?
Alors, pour être très honnête, les comptes de SpaceX sont remarquablement opaques. En revanche, le budget de la NASA prévoit donc des coûts, enfin, des budgets précis. Mais là, ce lancement en fait, est noyé dans un contrat plus vaste qui se monte à environ 3,1 milliards de dollars, qui recouvrait le développement et la certification, c'est-à-dire la qualification en vol, donc avec un vol inhabité et ce vol habité. D'ailleurs, je tiens à rappeler, le succès de cette mission, ce n'est pas le lancement. Le succès de la mission, ça sera après le retour, quand on dépouillera les données et qu'on verra que tout s'est bien passé. Les deux astronautes sont des pilotes d'essai. Ils vont tester la capsule en vol, ils vont tester des procédures d'urgence quand elle sera amarrée à la station, mais la seule mise sur orbite n'est pas un succès de la mission, c'est un succès de la première phase.
Oui, voilà, effectivement, pour que tout ceci fonctionne et que ça soit validé et qu'on puisse parler de succès, il faut évidemment que ces deux astronautes reviennent et que la mission ait pu être menée à bien dans son ensemble. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'y avoir participé. Léopold Deyaert, ancien astronaute de l'Agence spatiale européenne et général de l'armée de l'air, et Stéphane Baranski, rédacteur en chef du magazine Aérospatium. Voilà donc en principe, le premier vol habité de SpaceX doit décoller dans quelques heures. La mission pourrait être reportée à samedi à cause du mauvais temps, on en saura plus d'une minute à l'autre. Décryptage, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe, Alice Ménard, Éléonore Krenik, Charles Barret et Patrick Adam. Je vous retrouve demain, même heure. D'ici là, très bonne soirée à l'écoute de RFI. Restez avec nous, dans un instant, vous retrouvez Guillaume Nodin pour le débat du jour. Peut-on accélérer le déconfinement ? C'est sa question ce mercredi.